Je vais reprendre le fil de mes enseignements.
Notre sujet, c'est de parcourir des attitudes qui sont des attitudes qui nous ouvrent à la grâce de l'Esprit Saint. J'ai dit combien c'était important. Puis donc on a déjà évoqué certaines de ces attitudes, hein, la fidélité à la prière, la confiance, l'humilité, l'obéissance, en particulier accueillir les événements de la vie tels qu'ils se présentent à nous, hein, la pratique de la paix intérieure. Bon, c'est arrêté là. Donc il me reste 3 points à voir. Alors, donc dans le premier point qu'on va voir ce matin, c'est vivre l'instant présent. Donc ça aussi, c'est très important. Vous voyez, plus nous vivons l'instant présent, hein, et vivre l'instant présent, ça veut dire qu'on a remis son passé à la miséricorde de Dieu, on arrête de le ruminer, d'y revenir sans cesse, hein, on confie tout à Dieu, bon, on remet tout à sa miséricorde. Ça veut dire aussi qu'en ce qui concerne l'avenir, eh bien, on confie son avenir à la providence de Dieu. On essaye de ne pas s'inquiéter, de ne pas tout le temps anticiper ou imaginer les pires choses qui pourraient arriver dans l'avenir. Donc on confie son avenir à la providence de Dieu. Et puis on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Un jour après l'autre, en présence du Seigneur, en faisant aujourd'hui bien le bien que je peux faire. La vérité importante qui est sous-jacente à ce que je dis, c'est que plus nous sommes dans l'instant présent, plus nous sommes en contact avec le réel, avec nous-mêmes, et puis aussi plus on est en contact avec Dieu, et en mesure de recevoir la grâce qui nous est nécessaire. Mais c'est aussi une attitude de réceptivité. Mais quand on est à ruminer le passé ou bien à s'inquiéter pour l'avenir, eh bien, là encore, on n'est pas vraiment ouvert au don de Dieu, cette grâce qui nous est donnée jour après jour. Oui, Dieu donne sa grâce jour après jour, on ne peut pas en faire des réserves. Et si je veux recevoir aujourd'hui la grâce qui m'est nécessaire pour vivre ce que j'ai à vivre, mes responsabilités, mes tâches, les combats que parfois j'ai à assumer, eh bien, plus je suis dans l'instant présent, plus la grâce qui est nécessaire m'est donnée. Au contraire, quand je ne suis pas dans l'instant présent, eh bien, les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est que parfois, aujourd'hui, il y a souvent une manière de vivre l'instant présent qui n'est pas du tout évangélique, hein, chez certaines personnes. C'est un peu une tendance, un peu de la culture moderne. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui vivent, je dirais, sans passé, hein, sans faire mémoire du passé, parce que de toute façon, les vieux, ils n'ont rien compris. Puis c'est à nous de réinventer la vie, sans du tout s'occuper que peut-être des personnes qui nous ont précédés n'ont pas été complètement idiots, qu'on a peut-être à recevoir de notre passé. Comme dit l'Écriture, honore ton père et ta mère. Autrement dit, reconnais ce que tu as reçu d'une tradition, d'un passé, d'une culture, enfin, de ce qui t'a précédé. Donc oui, il n'y a pas de passé, on n'a pas de racine dans le passé, on veut réinventer la vie de manière totalement spontanée à chaque instant. On n'a pas d'avenir non plus parce qu'on n'a pas de projet. Et puis on se contente de jouir de l'instant présent, de profiter de la vie, oui, sans enracinement dans le passé et sans projet pour le futur. Alors c'est sûr, ça c'est pas la bonne manière de vivre l'instant présent. Enfin, pour un exemple, j'ai rencontré une fille il y a pas longtemps qui me dit, voilà, je suis avec un gars, on vit ensemble depuis 5 ans, pas une seule fois il a évoqué l'idée que peut-être un jour on puisse se marier. Donc oui, on profite de la vie, mais il y a pas de futur, il y a pas de passé, il y a pas de futur. Oui. Et ça évidemment c'est destructeur. Donc je dirais, la vie chrétienne, nous sommes enracinés dans un passé, une tradition, une mémoire, vous voyez, nous avons des projets d'avenir, bon, c'est indispensable, c'est clair, mais en même temps, on vit l'instant présent. Autrement dit, on n'est pas dans les remords, les regrets du passé, dans les inquiétudes pour l'avenir, mais on fait aujourd'hui ce qu'on a à faire, vous voyez, simplement sous le regard de Dieu, et ça, c'est extrêmement important. Parce que souvent, nous dépensons beaucoup d'énergie. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Et nous, comme on est tous un peu majocistes, on trouve que la peine du jour n'est pas suffisante, alors on rajoute des regrets pour le passé, les peurs pour l'avenir, puis on s'étonne d'être trop fatigué en fin de journée. Bon, il y a des fatigues qui sont parfois inévitables, mais vous voyez, souvent ce qui nous fatigue, c'est nos soucis. Hein. Moi, il y a un père dominicain qui me disait, ce qui me fatigue, c'est pas le travail que je fais, c'est le travail que j'arrive pas à faire. Ce qui est très juste. Oui. Alors... Oui, donc c'est extrêmement important, vous voyez. Alors, c'est pas facile parce que nous sommes des êtres humains, on a une imagination qui est terrible, hein, voyez, et dont le démon se sert beaucoup, hein, pour nous faire toujours éveiller des peurs et tout ça, de tout ce qui pourrait arriver ou je sais pas quoi. Hein. Bon. Mais donc, oui, cet effort que nous faisons pour dire, bon, du calme, hein, ne retourne pas en arrière. Bon, t'as fait des erreurs, t'as fait des bêtises, t'as perdu du temps, ok, mais tu vas pas tout le temps revenir sur ton passé. Hein, remets-le à la miséricorde de Dieu, fais une bonne confession, puis on n'en parle plus. Hein, et repart à zéro. Hein. Et puis, pour ce qui est de ton avenir, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs. C'est vraiment des textes qu'il faut méditer souvent. Parce que souvent, on est dans nos familles, ce qui pèse beaucoup, c'est le souci et l'inquiétude qui fait qu'on est tellement rongé par des soucis, par des craintes, et bien que finalement, l'amour, on devient dur, on devient méchant les uns envers les autres à cause de nos inquiétudes parfois, parce qu'on n'a pas su remettre nos soucis entre les mains de Dieu, vous voyez, et vivre dans la confiance et l'abandon à la Providence. Il ne s'agit pas d'être irresponsable. Donc, il faut évidemment penser à l'avenir. Si j'ai des enfants à inscrire à l'école, il vaut mieux le faire, je dirais, au mois de mai plutôt que 3 jours avant la rentrée. Vous voyez, bon, pour l'année prochaine, enfin bon. Bon, puis si cette retraite n'avait pas été bien programmée de manière très très sérieuse par nos amis depuis un certain temps, ben on ne serait pas là. Donc je dirais une planification, des projets, une organisation intelligente, un agenda bien clair, ça fait partie de la vie. Hein, plutôt que la pagaille permanente et l'improvisation constante. Vous voyez, donc, mais alors, ce qu'il faut éviter, c'est l'inquiétude. Et comme disait le Père Kolb, soyez occupés, mais ne soyez pas préoccupés. Jésus nous met beaucoup en garde contre ça, parce qu'il sait bien que l'inquiétude nous ronge le cœur et nous empêche de nous aimer les uns les autres. Oui, oui, quand tout le monde est dans le stress, eh bien chacun court, chacun est dans sa bulle, ses soucis, et puis il n'y a plus de communication, vous voyez. Bon. Et puis je rajoute un peu deux petites choses par rapport à ça. Oui, une première, c'est que là aussi, c'est un aspect un petit peu de pauvreté spirituelle. Accepter de ne pas pouvoir refaire son passé, accepter de ne pas être le maître de l'avenir, mais vivre un jour à la fois, mais sous le regard de Dieu. Et puis aussi, vous voyez, souvent notre défaut, c'est qu'on voudrait être fort, hein, on voudrait être riche, avoir des grosses réserves d'intelligence, de vertu, de formation, d'argent et tout ça. Bon, alors, les sécurités humaines, bon, alors quand on en a, tant mieux, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mépriser quand elles sont données, vous voyez, mais c'est très important aussi de bien comprendre, vous voyez, que la grâce qui nous est nécessaire pour vivre, vous voyez, on ne peut pas en faire des stocks, mais elle nous est donnée jour après jour. Oui. Et quand j'ai besoin de peu, je reçois peu. Hein, quand j'ai besoin de plus, je reçois plus. Oui. Hier, on parlait du martyr. Il y a parfois des gens comme ça qui peuvent dire, oh là là, mais si jamais il y avait une persécution, qu'est-ce que je ferais, hein? Aujourd'hui, il suffit que j'aille chez le dentiste et que j'entende le bruit de la fraise pour que je m'évanouisse. Oui, alors qu'est-ce que... Oui. Bon, oui, il y a souvent des peurs comme ça. Hein. Bon, s'il m'arrivait telle situation, telle maladie, si j'avais un cancer, bon, oui, on panique à l'avance et on regarde sa faiblesse et puis on commence à se dire, mon Dieu, j'en... Mais c'est pas juste comme raisonnement, vous voyez. Si un jour tu as à vivre des choses difficiles, Dieu te donnera la grâce, mais à ce moment-là, hein, aujourd'hui tu n'en as pas besoin, hein, tu n'as pas besoin de la grâce du martyr. La seule grâce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'écouter avec patience le Père Jacques. Bon, c'est peut-être un martyr, j'en sais rien. Oui. Oui, donc là, il faut donc acceptons d'être petits et pauvres. Ne cherchons pas à faire des provisions. Oui, c'est comme la manne dans le désert, oui, on ne pouvait pas la stocker. Elle était donnée chaque jour, elle avait le goût qu'il fallait pour chacun. Qui en ramassait peu en avait assez, qui en ramassait beaucoup n'en avait pas trop. Ce jour, et quand on essayait de la stocker, hein, vous savez ce qui se passait, hein, elle pourrissait, puis on trouvait des vers dedans. Ouais, un petit ver dans la manne. Bon, le ver fait aussi partie des animaux bibliques. Oui, donc on ne peut pas. Alors, donc il faut accepter d'être petit et pauvre, hein, vous voyez, et de recevoir, mais avoir la certitude et la confiance, hein, qu'on reçoit jour après jour de Dieu ce qui est nécessaire, hein, plus et moins selon ce qu'on a à vivre et à affronter. Hein, donc c'est très important de vivre comme ça. Puis aussi une autre remarque que je fais, vous voyez, c'est que cette aptitude à vivre l'instant présent, c'est très très libérateur, vous voyez. Donc on est libre par rapport aux inquiétudes de l'avenir, et puis on est aussi libre par rapport au passé. Et ça, parfois, c'est très très important. Parce que parfois le démon peut beaucoup nous décourager, hein, parce qu'il nous dit, ben, regarde les bêtises que tu as faites, regarde. Puis parfois on est collé au passé parce qu'on rumine des fautes, des erreurs qu'on a commises. Donc il y a un manque de confiance dans la miséricorde et le pardon de Dieu, vous voyez. Oui, et donc il faut bien se rappeler, vous voyez, souvent on a un peu cette mentalité, hein, de dire que la grâce que Dieu nous donne, eh bien, elle va être mesurée de la manière suivante. Oui, c'est comme si Dieu faisait une espèce de comptabilité de notre passé, avec deux colonnes, hein, le bien d'un côté, les bonnes actions, les bonnes œuvres, et puis les bêtises de l'autre côté. Vous voyez, puis alors il fait un bilan, un calcul, puis en fonction du bilan, il va donner une grâce plus ou moins grande, hein, selon le résultat du bilan, vous voyez. Alors si j'étais gentil, sage et bien élevé, j'aurais beaucoup de bons points. Par contre, si j'ai fait des bêtises, eh bien, je peux pas m'attendre à grand chose de la part du bon Dieu, vous voyez. Mais ça, c'est pas du tout évangélique. Ça, c'est l'homme qui se sauve par ses propres œuvres, vous voyez. C'est le contraire de ce que l'évangile annonce, le salut par la foi. Oui, et donc la vérité évangélique, qui est tellement libératrice, c'est de dire, oui, peu importe ton passé. Oui, peu importe ton passé. Si aujourd'hui, tu te décides à faire confiance, si aujourd'hui tu décides à croire, si aujourd'hui tu décides à aimer, ben Dieu te donnera toute sa grâce, vous voyez, et non pas une proportion plus ou moins grande relativement au capital de bonnes actions que tu as réussi à quoi. Alors, c'est bien qu'on fasse des bonnes actions, vous voyez, et puis que... Bon, parce que c'est vrai que quand on a fait parfois des choses graves, bon, il peut y avoir un temps de guérison qui peut prendre du temps, il y a comme des souffrances à porter, bon, ça c'est vrai. Mais ceci dit, vous voyez, c'est très important pour nous d'avoir vraiment ces consciences très claires, vous voyez, que Dieu me donne son amour et sa grâce, hein, selon ma confiance aujourd'hui, hein, non pas selon ce que j'ai fait ou pas fait hier ou avant-hier. Et donc c'est ça la vie chrétienne, vous voyez, chaque main, comme dit Paul, oubliant le chemin parcouru, hein, je poursuis ma course. Hein, et aujourd'hui, c'est ça la vie chrétienne. Aujourd'hui, je me décide à aimer le Seigneur, à aimer ma femme, mon mari. Aujourd'hui, je me décide à faire confiance, je me décide à espérer, je me décide à aimer. Et peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui arrivera demain, aujourd'hui, je me décide. Et demain, je recommence. C'est très libérateur de vivre comme ça, vous voyez. Et il y a souvent des sacristies où on trouve cette phrase, oui, adressée au prêtre. Célèbre cette messe comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, comme si c'était la seule. Et c'est très très juste, oui. Si nous vivons chaque moment, chaque journée, comme, nous n'avons qu'un jour à vivre, vous voyez. Il faut vivre un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Et donc ne pas laisser peser sur la journée présente les retours en arrière, les regrets du passé ou les craintes, hein, pour l'avenir. Alors c'est pas naturel, ça demande un petit effort, hein, mais je pense que les efforts que nous faisons dans ce sens-là sont extrêmement bénéfiques. Hein. Oui, Thérèse, elle disait ça dans un moment de grande souffrance, elle dit « on désespère quand on pense au passé et à l'avenir ». Surtout dans les moments de souffrance et d'épreuve, c'est important de vivre l'instant présent. Oui, on ne peut pas souffrir 40 ans, mais on peut souffrir un jour, et puis un deuxième. Puis on n'a pas à savoir combien de temps ça va durer, on vit l'instant présent, oui. Et rien n'est insupportable dans l'instant présent, hein, parce qu'on a la grâce. Bon, je suis un petit peu rapide, mais enfin, je pense avoir dit l'essentiel. Oui, donc vivre l'instant présent. Et plus on le fait, plus effectivement on est réceptif et ouvert, hein, à Dieu qui est là, qui est le Dieu du présent et qui nous accompagne et nous soutient dans ce que nous avons à vivre. Alors, le point suivant, donc... Alors le mot clé que je mettrais, c'est le mot de détachement, hein, ou détachement ou liberté. Donc c'est une idée extrêmement simple, vous voyez, c'est l'idée que si nous voulons que l'Esprit Saint agisse en nous, si nous voulons que l'Esprit nous conduise, hein, eh bien il faut lui laisser un espace. Hein, il ne faut pas tout boucler, tout verrouiller, tout programmer, tout... Vous voyez, donc ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de souplesse, vous voyez, donc c'est peut-être la parole clé, vous voyez, beaucoup de souplesse, de liberté, vous voyez, quand je fais certains programmes, certains projets, j'ai certains désirs, et si les choses se passent selon mes projets, mes désirs, tant mieux, mais si les choses ne vont pas comme j'avais prévu, l'accepter aussi, sans perdre la paix, sans me décourager ou m'inquiéter. Oui. Donc un grand détachement. Il y a quelques années, j'étais à Medjugorje et j'ai suivi une retraite pour des prêtres qui était très belle. Et puis on a une religieuse qui est venue nous donner son témoignage, qui est venue nous parler, qui est sœur Elvira, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fondé l'œuvre du Cénacle, le Cénacolo, où ils accueillent des jeunes, elle accueille des jeunes drogués. Donc il y a des maisons pour des garçons, des maisons pour des filles. Puis, il y en a beaucoup dans le monde. Je sais pas combien, mais enfin c'est une très 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 belle œuvre, magnifique. Et puis quand elle est venue nous parler, c'est une femme qui est très très touchante parce qu'elle a un enthousiasme, elle a vraiment une pêche, un enthousiasme pour le bon Dieu qui est assez extraordinaire, et puis une grande liberté intérieure. Donc elle nous avait parlé assez longuement, et il y a une phrase que j'ai retenue et que j'ai vraiment gardée parce que sans doute j'avais besoin de l'entendre. Elle a dit la chose suivante. Elle a dit: je suis toujours prête, hein, dans les 5 minutes qui viennent, à faire le contraire de ce que j'avais prévu. Oui, je suis toujours prête à faire dans les 5 minutes qui viennent le contraire de ce que j'avais prévu de faire. Je me dis chapeau, j'en suis pas là. Mais c'est extrêmement important, oui. Une espèce de souplesse qui fait que, bon, on a des projets, on est responsable, on fait son boulot, on avance. Mais quand arrivent des contrariétés, quand les choses prennent une tournure différente, eh bien, on l'accepte. On peut changer ses plans, oui. Oui, donc un grand détachement, hein, par rapport à nos programmes, à nos objectifs. Et souvent, vous voyez, ce qui nous empêche d'accueillir toute la grâce du Saint-Esprit, c'est qu'on est trop attaché. Oui, à nos idées, nos manières de faire, nos projets. Oui, souvent, parfois par orgueil ou par peur, oui, on est crispé, hein, sur notre manière d'organiser la vie, hein, et on manque de cette souplesse. Hein, et c'est dommage, oui, parce qu'on se rend malheureux, et puis souvent on se met en colère épouvantable, ou bien on se décourage pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Hein, au lieu de s'abandonner à Dieu avec souplesse, avec flexibilité, hein, si je dirais. Vous voyez? Oui, et ce qu'il nous faut comprendre, là, vous voyez, c'est que, enfin, François de Sales, il dit la chose suivante. Il dit que la seule chose que nous devons vouloir de manière absolue, c'est Dieu. Mais tout le reste, il faut le vouloir de manière relative. Hein? Bon, le vouloir, le désirer, mais hein, sans y mettre, je dirais, tout soi-même. Hein? Vous voyez, parce que notre défaut, c'est souvent le défaut suivant. C'est que nous voulons des choses qui sont bonnes. Par exemple, je voudrais tellement que mon mari se convertisse, oui, ou que mes enfants changent de conduite. Donc nous voulons des choses qui sont bonnes, hein, mais nous les voulons d'une manière qui n'est pas tout à fait juste. Hein, on y met beaucoup d'impatience, hein, beaucoup d'attachement, et puis si ça ne se passe pas comme on voudrait, ou si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, eh bien, hein, on est fâché ou bien inquiet, etc. Oui. Donc là, il faut vérifier cela de temps en temps. Vous voyez, non seulement de vouloir des choses qui sont bonnes, hein, qui sont conformes à la volonté de Dieu, mais aussi les vouloir d'une manière libre. Hein, par exemple, je voudrais bien que mon mari se convertisse, qu'il aille davantage à la messe ou qu'il prie davantage. Bon, ce que tu veux, c'est bon, hein, mais que tu te mettes en colère contre lui parce qu'il se convertit pas assez vite, là, je suis plus tout à fait d'accord, oui. Ça, c'est très très important, oui, de vouloir des choses bonnes. Il ne s'agit pas de renoncer au bien, à ce que les autres se convertissent, à ce que tout s'améliore. Donc, il faut vouloir des choses bonnes et les vouloir de tout son cœur, mais quand même avec toujours un espace de liberté, hein, selon les temps de Dieu, hein, comme Dieu voudra, et non pas comme moi, oui, je voudrais que les choses aillent. Voyez. C'est très important parce que c'est source de paix, et puis. Alors ça demande aussi une certaine pauvreté, un certain lâcher prise, un certain abandon, mais c'est bénéfique pour nous et pour les autres, vous voyez. Oui, donc tout ce qui est un peu impatience, colère contre l'autre parce qu'il ne change pas comme il devrait changer, tout ça, c'est pas productif. Hein. Et souvent les autres, ils commencent à changer quand on arrête de faire pression pour qu'ils changent absolument. Oui. Ça arrive parfois. Et puis le vrai travail à faire, c'est pas de travailler sur les autres, hein, c'est de travailler sur soi-même. Il faut commencer par ça. Alors, au lieu de travailler sur l'autre, il faut travailler sur ma colère. Bon. Au lieu de faire pression sur l'autre. Pour que... Oui, donc détachement. Hein. Alors, c'est pas facile. Hein. Mais hein, là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du renoncement parfois. Mais Jésus le demande dans l'évangile. Celui qui ne se renie pas lui-même, hein, oui. Alors c'est des paroles un peu dures qu'on a du mal à comprendre, mais je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est une invitation à la souplesse. mais une souplesse qui est bonne parce qu'elle permet à Dieu de prendre les choses en main. Elle permet à l'Esprit Saint de... Et on s'aperçoit que plus on est détaché, hein, plus on est libre et plus on est souple, plus Dieu pose les choses de manière bonne dans notre vie. Plus les choses se déroulent de manière harmonieuse. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des moments un peu complexes, un peu difficiles, mais quand même, on fait cette expérience que Dieu conduit bien notre vie. Quand on s'abandonne avec une grande souplesse entre les mains de Dieu, Dieu conduit toutes choses de manière bonne, vous voyez. Et puis parfois, il y a très belles surprises de la providence. Alors, nous arrivons au huitième point, qui est le dernier dans ma boîte à outils spirituelle. Alors, ce dernier point, c'est la gratitude, la reconnaissance. J'en ai un tout petit peu parlé donc à propos de l'humilité, mais je vais revenir sur ce sujet parce que je crois que c'est très très important aussi. Ça a l'air de rien, c'est peut-être pas l'outil le plus gros de la caisse à outils, mais c'est peut-être un des plus précieux. Enfin, ils sont tous précieux, mais... Je vais peut-être commencer par vous lire un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur ce sujet. Donc voilà ce que dit la petite Thérèse. Donc vous ne trouverez pas ça dans les œuvres complètes parce que c'est des paroles de Thérèse qui ont été rapportées dans un autre livre par sa sœur Céline, Geneviève de la Sainte Face. C'est un petit bouquin qui s'appelle « Conseils et souvenirs ». Par sœur Geneviève, donc dans lesquelles elle rapporte des paroles de Thérèse. Alors voilà ce que Thérèse disait. Donc, ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Et donc là, on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce qui attire la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui fait descendre le Saint-Esprit? Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces. Il y a un peu d'humour dans ce texte, hein, c'est clair. J'en ai fait l'expérience. Essayez et vous verrez. Oui, c'est comme la lessive. Essayez, vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne, et je le lui prouve de 1000 manières. Alors, ce texte peut paraître un petit peu pas hyper sérieux, c'est pas de la grande théologie dogmatique, mais en même temps, je crois qu'il y a une vérité extrêmement profonde, oui, puis très théologique de toute façon. Oui, c'est que plus notre cœur est dans la gratitude, et bien plus effectivement nous recevons la grâce de Dieu. Alors là, ce qu'elle a l'air un petit peu de dire, vous voyez, c'est que quand on dit merci à Dieu, il est touché, et puis donc il nous fait 10 autres bienfaits, et puis si on remercie de nouveau avec le même enthousiasme, bien voilà, ça se multiplie. Alors, bon, il y a une part de vérité, parce que Dieu est touché, évidemment, et Dieu est Père, et je crois que quand on lui dit merci, ben, Dieu, c'est pas quelqu'un d'insensible, hein, tout le contraire, donc... Mais je crois que la question de fond, c'est pas que le fait de dire merci à Dieu, ça rend Dieu plus généreux, hein, que ça améliore Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, il est infiniment généreux. Donc, oui, c'est pas Dieu que ça change, mais c'est nous-mêmes que ça change. Oui, le fait de dire merci. Hein, ça change mon attitude de fond, vous voyez. Hein, la gratitude. Hein, et ça ouvre mon cœur. Hein, et Jésus le dit, vous voyez, celui qui a, recevra encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, eh bien, même ce qu'il a lui sera enlevé. Bon, ça peut être appliqué à différentes situations, à ces paroles un peu sévères de Jésus, mais comme toutes les paroles de Jésus, c'est des paroles pour nous conduire à la liberté et au bonheur. Oui, celui qui a, autrement dit, celui qui reconnaît ce qu'il a reçu, même si ce n'est pas grand-chose, et qui sait remercier Dieu pour ce qu'il a déjà reçu, recevra encore. Parce que son cœur est ouvert, et qu'il peut recevoir. Au contraire, celui qui est tout le temps en train de se plaindre parce qu'il n'a pas reçu suffisamment, parce qu'il a été oublié par le bon Dieu, puis qui jalouse les autres qui ont plus de dons, plus de talents, tout ce que vous voudrez, puis qui passe sa vie à se lamenter sur lui-même, eh bien, il recevra de moins en moins. Non pas parce que Dieu n'est pas généreux, mais parce que ton cœur est fermé. Et plus ton cœur est dans la gratitude et la reconnaissance, plus il est ouvert au don de Dieu. Au contraire, quand tu es dans la plainte, l'accusation, la jalousie, quand tu es tout le temps mécontent de ce qu'est ta vie, eh bien tu t'enfermes dans ton mécontentement et de fait, ta vie devient malheureuse. Mais non pas parce que la vie est mauvaise, parce que toi, tu as fermé ton cœur. Tu n'es plus capable d'accueillir la vie comme un don. Voyez. Vous voyez, donc il y a des choses très très importantes derrière tout ça. Je voudrais vous lire un texte aussi de Saint Bernard qui va dans le même sens. Alors, c'est un commentaire de l'évangile des 10 lépreux. Vous connaissez cet évangile, donc, de 10 lépreux qui ont rencontré Jésus, puis qui l'ont supplié d'être guéri. Et donc, Jésus a guéri effectivement ces 10 lépreux qui ont été se présenter aux prêtres, faire leur offrande. Et puis, il y en a un seul qui est venu remercier, un Samaritain, qui est revenu sur ses pas, puis qui s'est jeté aux pieds de Jésus en lui rendant grâce pour la guérison qu'il avait reçue. Et cet homme, et Jésus dit, comment ça se fait que cet homme soit le seul à venir me remercier? Tous n'ont-ils pas été guéris? Puis Jésus lui dit après, va, ta foi t'a sauvé. Alors c'est assez curieux parce qu'en fait on dit, Jésus lui dit, tu es sauvé, mais en fait il est déjà guéri cet homme. Vous voyez, quand cet homme est venu remercier Jésus, il s'est passé quelque chose de nouveau. Avant, il était simplement un malade qui a été guéri. Là, il est devenu quelqu'un qui vraiment a rencontré, à cause de son action de grâce, parce qu'il est venu remercier Jésus, il est vraiment entré dans la profondeur de la foi. Il a été beaucoup plus loin par le fait d'être revenu rendre grâce au Christ. Vous voyez, c'est vraiment une rencontre. Il a accueilli de manière plus profonde le Christ. Hein, et c'est pas contenté d'une guérison physique, je pourrais dire, mais il y a eu comme un contact plus profond avec le Christ dans le don de la foi. Alors voilà ce que dit Saint Bernard à propos de cet évangile. Heureux celui qui pour chaque don de la grâce revient vers celui en qui se trouve la plénitude de toute grâce. Heureux celui qui pour chaque don de la grâce, petit ou grand, revient vers le Christ pour le remercier. En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce, afin d'obtenir des dons plus grands encore. Oui, c'est tout à fait ce que j'essaie d'expliquer, qui dit de manière très très belle, oui. En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce, afin d'obtenir des dons plus grands encore. Oui, le cœur s'ouvre, le cœur se dilate, le cœur se purifie par l'action de grâce, et peut recevoir les dons de Dieu, de manière plus abondante. Et il dit une phrase qui est assez forte après. C'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance, c'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre engagement chrétien. Car le donateur, considérant comme perdu ce qu'on a reçu de lui sans reconnaissance, se tient sur ses gardes. Il sait que plus il donnerait à un ingrat, plus il dépenserait en pure perte. Heureux donc celui qui se considère comme un étranger, là c'est sa attitude d'humilité, enfin bon, celui qui sait tout accueillir comme un cadeau, oui, je le disais à propos de l'humilité. Heureux donc celui qui se considère comme un étranger et qui pour les moindres bienfaits rend grâce largement. Et je crois que c'est très très précieux comme attitude, oui, et vraiment ça purifie le cœur. Et moi, quand je suis rentré dans la communauté il y a presque 40 ans maintenant, bon, je suis arrivé dans une communauté très charismatique. Ça chantait, ça levait les mains, ça disait merci Seigneur du matin au soir. Au début, ça m'énervait un peu parce que c'était pas tellement. Moi j'étais un mathématicien, c'était pas tellement mon style, disons. Mais ce que j'ai très vite compris, vous voyez, c'est que. Pourquoi cette importance de donner la louange? Parce que ça purifie le cœur, vous voyez. Oui, l'action de grâce purifie le cœur. Au lieu d'être dans une attitude de retour sur soi, de tristesse, de découragement, de pessimisme, vous voyez, eh bien, la louange nous purifie de tout cela. Et ouvre le cœur à la présence, à l'amour de Dieu, et nous permet de recevoir tout ce que Dieu désire nous donner. Puis c'est comme l'expérience qu'on a fait dans le renouveau charismatique, c'est que la louange ouvre au travail de l'Esprit, à la présence du Saint-Esprit. Alors c'est vrai dans les groupes de prière, dans l'Église qui rend grâce au Seigneur. C'est pas pour rien que tous les matins, on commence la journée par un office de louange. C'est justement pour que le cœur s'ouvre à Dieu et reçoive la grâce nécessaire pour vivre le quotidien qu'on aura à affronter. Oui, donc l'action de grâce purifie le cœur et nous permet de nous fait grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et nous met en communion avec le don de l'Esprit, avec la présence de Dieu Alors, évidemment, c'est pas toujours facile. Il y a des moments de la vie, bon, rendre grâce, c'est pas spontané. Là, ce qui est spontané, c'est plutôt de se plaindre, voire de se révolter. Bon, nous sommes des êtres humains. Et donc, bon, faut pas juger les autres parce qu'ils sont pas toujours en train de bondir de joie ou de... Et puis il faut respecter aussi la souffrance de chacun. C'était parfois un peu le défaut de certains charismatiques qui rentraient dans une chambre d'hôpital en disant à la personne clouée sur le lit « Rends grâce au Seigneur pour ta maladie ». Bon, bon, un petit peu de calme. Il faut commencer par respecter la souffrance de l'autre, par l'accueillir, puis peu à peu un petit travail d'acceptation. Bon, donc il faut pas être, il faut être très, très attentif. Vous voyez, quand on est face, surtout quand on est face à des personnes dans des grandes. D'être très délicat et très accueillant d'abord, hein, que l'autre se sente compris dans sa souffrance avant qu'on lui fasse des belles exhortations, hein, spirituelles. Bon. Mais ceci dit, il y a quand même une vérité profonde, vous voyez. Enfin, je dirais que, alors, c'est pas quelque chose qu'il faut demander aux autres, mais que nous devons pratiquer nous-mêmes. Alors, c'est pas facile, dans certains moments, je le sais bien. Mais je dirais que, autant qu'il dépend de nous, autant qu'il est possible, oui, savoir dire merci à Dieu, hein, pour des petites choses, et même dans la pire des situations. On trouve toujours quand même des raisons de rendre grâce à Dieu. Oui, il n'y a pas de nuit sans étoile. Et moi, ça m'arrivait assez souvent de donner cette pénitence à des personnes après une confession, hein, quand je sens que c'est des personnes très repliées sur elles-mêmes, dans la plainte, le manque d'espérance et tout ça, de lui dire, bah, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tous les soirs, tu vas prendre 5 minutes, une feuille de papier, puis tu vas écrire au moins 5 raisons, hein, que tu as aujourd'hui, enfin, ce soir, de dire merci à Dieu pour cette journée. Et même dans la pire des journées, on trouve toujours 5 raisons de dire merci à Dieu. Parce que ça a été terrible, mais quand même, il y a eu quand même la voisine qui m'a fait un sourire, telle personne qui, je sais pas quoi, il y a eu quand même un petit oiseau qui a chanté, un rayon de lumière qui a jailli entre deux nuages. Il y a toujours. Oui. Et si tu rends grâce pour ces petites choses, oui, eh bien ça purifie ton cœur. Et tu t'aperçois que ben, c'est pas si tragique que ça. Que Dieu ne t'a pas abandonné, que tu es peut-être dans les ténèbres, mais il y a des étoiles qui brillent, des petites étoiles toutes simples qui brillent, oui, pour te dire fais confiance à Dieu, la nuit n'est pas interminable. Oui, et donc je crois que c'est très important pour nous de. Hein, je crois qu'à un certain moment c'est une véritable ascèse et on est encore dans le carême. Et si vous avez pas encore fait pénitence et que vous savez pas quelle pénitence faire, moi je vous suggère ça comme pénitence maintenant jusqu'à Pâques, enfin dans la liberté des enfants de Dieu, de pratiquer l'action de grâce et autant que possible et le plus possible de dire merci à Dieu pour toutes les petits cadeaux qu'on trouve dans chaque journée, même quand elle est difficile, même si les enfants étaient insupportables, même si je me suis disputé avec mon mari, il y a quand même des petites choses pour lesquelles je peux dire merci à Dieu. Je peux lui dire merci d'avoir à pratiquer la patience, ça c'est déjà un peu l'étage au-dessus, mais il faut commencer par le premier. Oui. Oui, ça a l'air de rien, mais c'est très très important. Hein. Marthe Robin disait cette phrase, il disait « Une âme qui n'est pas dans l'action de grâce est une âme malade. » Alors, on a le droit d'être malade, mais il faut guérir. Hein, et l'action de grâce est un chemin de guérison du cœur. Hein, nous cherchons tous des guérisons. C'est un chemin de guérison, hein, que de rendre grâce. Hein, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Hein, et Paul nous dit « Vivez dans l'action de grâce. » Il ne dit pas « Rendez grâce une fois par semaine à la messe du dimanche ou au groupe charismatique hein, ou à la rencontre d'équipe, je ne sais pas comment vous faites chez vous. » Paul nous dit « Vivez dans l'action de grâce. » Oui, c'est un état de vie. C'est un choix de vie. Et c'est lors d'une décision, vous voyez, d'un choix. J'aurais 1000 raisons de me plaindre, mais je choisis de rendre grâce. Et j'ai toujours des raisons de rendre grâce de toute façon. Hein, ne serait-ce que parce que je suis vivant, ne serait-ce que bon, parce que Dieu existe et qu'il est mon Père. Et bon. Alors c'est une attitude de foi, bien sûr, là encore c'est fondé sur la foi, hein, comme tout ce que j'ai déjà évoqué, mais c'est très très beau. Hein. Et je dirais que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Hein, parce que dans la culture moderne, il y a une tendance extrêmement forte, vous voyez, à pousser les gens à se positionner tout le temps en victime. Et ça c'est vraiment le sens du poil aujourd'hui. Hein. Plains-toi, revendique, fais des procès, accuse, venge-toi, vas-y, te gêne pas. Hein. T'as souffert, fais souffrir les autres. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même la tendance aujourd'hui, où tout le monde a tendance à se positionner en victime. Bon, alors il y a parfois des situations très très douloureuses qu'il faut accueillir, et parfois ça peut être libérateur de dire à quelqu'un, tu n'es pas le coupable, mais tu es la victime. Hein. Donc, je nuance mon discours, mais il faut faire attention. Donc il y a une vérité des faits qu'il faut évidemment prendre en compte et savoir dire. Mais attention à cette tendance psychologique très naturelle d'être tout le temps en position de victime, à accuser les autres et à se lamenter sur soi-même. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que l'Évangile nous invite à vivre. Alors c'est un choix courageux, vous voyez, un choix de confiance, un choix de foi, mais c'est libérateur et ça purifie notre cœur et ça nous ouvre au travail de la grâce et au don de l'Esprit. Bon. Ben, je crois que j'ai à peu près terminé. Bon, j'étais un petit peu rapide sur certaines choses. Peut-être pas mis toujours toutes les nuances qu'il aurait fallu mettre, mais... Voilà, donc voilà un peu ma conclusion. Je vous ai présenté. Alors, il y a peut-être qu'il y a des points... Bon, j'ai pas parlé, par exemple, des sacrements, mais c'est clair aussi, mais c'est en lien avec la prière, c'est clair que l'Esprit Saint nous est donné à travers les sacrements aussi. Hein, l'Eucharistie, la confession, bon, la grâce du sacrement de mariage, etc. Hein. Mais ça, c'est un peu inclus dans la vie de prière. Bon, il y a peut-être des points que j'aurais pu évoquer, que je n'ai pas évoqués. Bon, peu importe. Hein, mais je pense que si nous pratiquons ces petites choses que je vous ai partagées, oui, jour après jour, sans se décourager, avec humilité et persévérance, si on essaie de pratiquer ces attitudes, quelque chose en nous est ouvert. Voyez, on est réceptif. Et Dieu fera son travail. Alors parfois on sentira le travail de Dieu, parfois on ne le sentira pas, c'est pas grave. L'important c'est de garder ses dispositions. Oui, et je pense que, peut-être pour conclure, c'est que toutes les dispositions que j'ai évoquées, on les retrouve de manière très très belle dans le mystère de la Vierge Marie. Je crois qu'aussi bien la confiance que l'humilité, que l'action de grâce, le Magnificat, que l'instant présent, que tout ce que j'ai dit, on pourrait reprendre un peu les points que j'ai évoqués et montrer comment c'est très marial à ce que je vous ai dit. Parce que marial, tout simplement parce que Marie vit pleinement l'Évangile. Donc je crois que peut-être aussi une chose qui est belle pour nous, c'est de nous confier à Marie. Et là aussi, nous confier à Marie, c'est aussi recevoir le Saint-Esprit et nous ouvrir à l'Esprit Saint, justement parce qu'elle nous enseigne à pratiquer tout cela, hein, jour après jour. Alors, comme on peut, et on n'arrive jamais parfaitement, il ne faut pas se décourager, il faut toujours, là aussi, s'accepter pauvre. L'humilité, c'est toujours la planche de salut. Oui, il faut avoir des objectifs, il faut essayer d'avancer. Bon, quand ça marche, on rend grâce au Seigneur. Quand ça ne marche pas, bien, on demande pardon et puis on ne se décourage pas, puis on accepte sa misère et puis on se redécide à nouveau, oui, jour après jour, pour le Seigneur. Donc, oui, enfin, tout ce que j'ai dit, ça forme une petite boîte à outils qui fait que pour chaque situation, il y a un outil qui nous aide à nous en sortir, vous voyez. Parfois c'est la gratitude, parfois c'est l'humilité, parfois c'est autre chose, mais si on pratique un petit peu tout ça, je pense que c'est des petites choses du quotidien, mais ça fait que notre vie est comme en permanence ouverte, hein, au mystère de Dieu, à son action, et que le Seigneur sera fidèle, hein, que si de notre part à nous, nous avons fait ce qu'il fallait pour être ouverts à sa grâce, eh bien, il saura être généreux envers nous et faire de belles choses dans chacune de nos existences.